Bienvenue, le journal Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Quelle sécurité sur les pistes de ski après l'accident mortel de Gaspard Huliel? La question se repose, d'autant que ce n'est pas le premier drame cet hiver. Chaque année, vous l'entendrez, 2000 collisions entre skieurs nécessitent l'intervention des secouristes. Une nouvelle journée d'action pour maintenir la pression dans l'éducation alors qu'un nouveau conseil de défense doit permettre ce matin d'y voir plus clair sur le calendrier des restrictions. Dans ce journal aussi, un Français jugé pour espionnage en Iran et une découverte rarissime et réjouissante. Des scientifiques sont tombés sur un nouveau récif corallien en parfaite santé dans le Pacifique.
Au micro de Léa Salamé à 7h50, aujourd'hui la candidate Les Républicains à l'élection présidentielle, Valérie Pécresse.
France Inter.
Après le choc de la mort de Gaspard Huliel, Alexis, de nombreuses questions sur les circonstances du drame.
C'est au cours d'une banale journée de ski entre amis que l'acteur a perdu la vie. Une collision avec un autre skieur au croisement de deux pistes bleues à La Rosière. La justice a ouvert une enquête. Cet accident repose la question de la sécurité sur les domaines skiables, d'autant que c'est le deuxième drame en quelques jours dans les Alpes. Le week-end dernier, c'est une fillette de 5 ans qui a été percutée mortellement à Flaine, en Haute-Savoie. Et dans ce cas précis, la vitesse de l'autre skieur était en cause. Ce n'est pas faute de faire de la prévention, se désolent ce matin les professionnels du secteur. Agera Mohamed a pu leur parler.
Chaque année en France, les secouristes réalisent en moyenne 45 000 interventions sur les pistes de ski. Et dans 5% des cas, il s'agit de collisions, des accidents rares, mais qui peuvent entraîner des traumatismes très graves, voire des décès. Et pourtant, la prévention n'a jamais été aussi importante, rappelle Laurent Reynaud, le délégué général des 200 domaines skiables de France.
Ce sont des messages qui sont postés sur les réseaux sociaux, sur les écrans d'affichage, sur les banderoles de sécurité. On force d'ailleurs les gens, par exemple, à ralentir quand ils arrivent sur des zones de bas de station. Au travers de chicanes, hein, tout simplement. Maintenant, chaque pratiquant maîtrise sa vitesse et sa trajectoire.
Une vitesse excessive, souvent en cause, et d'autres comportements dangereux aussi sur lesquels les pisteurs secouristes n'ont aucun pouvoir de sanction.
C'est vrai que quand on est face à un accident tragique, on ne peut pas s'empêcher, nous, professionnels, de regretter de ne pas avoir plus de moyens d'action sur la verbalisation, par exemple, de skieurs qui auraient des comportements anormalement dangereux.
Quant au casque, faut-il le rendre obligatoire pour tous les skieurs? Et bien sur ce point, Laurent Reynaud n'est pas convaincu.
Parce qu'on ne peut pas équiper un skieur comme un Goldorak et ne jamais encourir le moindre risque. Il faut responsabiliser, bien sûr, les skieurs dans leur comportement et dans leur pratique.
À chaque saison, un peu moins de 10 décès par an sont enregistrés sur les pistes de ski françaises. Un chiffre stable ces dernières années.
Un dossier signé à Gérard Mohamed. C'est à 15h hier après-midi que l'agent de Gaspard Huliel a annoncé son décès. Depuis, c'est une pluie d'hommages. Parmi les derniers en date, celui d'Emmanuel Macron qui dit ce matin sa grande tristesse face à une disparition brutale. Comme j'ai aimé te connaître, écrit cette nuit l'actrice Marion Cotillard sur Instagram. Sur franceinter.fr ce matin, vous retrouvez les grands moments de la carrière de Gaspard Huliel.
Il est 7h32, un nouveau conseil de défense ce matin.
Face à une situation épidémique contrastée en France, des contaminations au plus haut, encore plus de 400 000 cas hier, des hospitalisations toujours en hausse, mais moins de malades en réanimation. Les restrictions devraient être prolongées pour une ou deux semaines au moins. L'exécutif surveille aussi de près la mobilisation à l'école après la grosse grève de jeudi dernier. Nouvelle journée d'action aujourd'hui contre la gestion de la crise sanitaire. Mais Sonia Princel, les grévistes devraient être cette fois bien moins nombreux.
C'est un peu une journée d'attente après la grande grève de jeudi dernier et avant celle de jeudi prochain, le 27 janvier, avec un mouvement de grève interprofessionnelle sur les questions d'emploi et de salaire. Aujourd'hui, il s'agit plutôt de maintenir la pression, de dire que les réponses du gouvernement ne sont pas à la hauteur et que la situation est toujours difficile dans les écoles. Mais la grève ne sera pas le mode d'action privilégié, sauf pour le syndicat Sud qui appelle les personnels à cesser le travail, de même que certaines sections locales de la FSU, en Seine-Saint-Denis, dans l'Essonne ou en Haute-Garonne, par exemple. Ailleurs, les mobilisations revêtront des formes très diverses. Tractage à la sortie des établissements, déploiement de banderoles devant les écoles avec l'inscription « Mon école craque » et diffusion des photos sur les réseaux sociaux, rassemblement à la pause déjeuner ou en fin de journée aux côtés des parents. La première fédération de parents d'élèves, la FCPE, soutient cette journée d'action. Les enseignants sauront être créatifs et trouveront sans doute des idées de happening ou de slogans sur le thème des vacances du ministre à Ibiza, qu'ils n'ont pas digérée.
Et à Paris, la manifestation des enseignants est finalement tolérée par la préfecture de police qui l'avait dans un premier temps interdite. La crise sanitaire qui complique encore plus le quotidien des sans-abri. Sont-ils d'ailleurs plus nombreux depuis 2 ans? C'est ce que veulent savoir les organisateurs de la Nuit de la Solidarité ce soir. Des bénévoles dans les rues pour recenser les personnes qui vivent dehors. 27 villes françaises y participent cette année. Certaines pour la première fois, comme Dunkerque dans le Nord. Faustine Calmel.
Et si le maire de la commune, Patrice Vergritte, s'est lancé cette année, c'est parce qu'il a vu la crise sanitaire plonger dans la précarité de nouveaux Dunkerquois.
On voyait effectivement plus d'étudiants, voire des étudiants étrangers aussi, qui étaient totalement démunis face à cette situation de crise sanitaire.
Une crise qui a aussi encore plus marginalisé les personnes à la rue.
Dans un temps où le sans-abrisme peut-être passer au second plan, c'est très important de réexpliquer la politique en direction des sans-abri. Pour les élus que nous sommes, il est important de dire à la population, voilà, il y a un problème et voilà comment on y répond.
Cette réponse, elle pourra être affinée grâce au recensement de ce soir, espère Christophe Langlais, coordinateur maraude et logement de l'association CAO Flandre.
Ça va nous permettre de parcourir des secteurs qu'on n'a pas forcément l'habitude de parcourir, éventuellement de croiser de nouvelles personnes, des personnes qui se cachent même, et pouvoir être amené à accompagner de nouvelles personnes.
Et notamment les femmes.
On sait que vivre dans la rue, bon, c'est pas évident, c'est risqué, c'est insécurisant, donc elles auront aussi plus tendance à s'isoler, se cacher, ce qui peut rendre difficile aussi la rencontre.
La première nuit de la solidarité à Paris avait dénombré 12% de femmes parmi les personnes à la rue, quand l'INSEE en comptabilisait 2%. Des écarts qu'il faudra aussi regarder à Dunkerque, alors que la ville vient de lancer la rénovation de son foyer d'accueil d'urgence.
Faustine Calmel. Dans le sud-ouest, les éleveurs de canards à foie gras s'attendent à un vide sanitaire contre la grippe aviaire. Jusqu'à 2,5 millions de volailles pourraient être abattues selon les syndicats agricoles, car ces derniers jours, les foyers se multiplient, principalement dans les Landes. Deuxième rendez-vous judiciaire de la semaine pour Éric Zemmour. Il doit être jugé en appel cet après-midi pour contestation de crimes contre l'humanité. En cause, ses propos sur Pétain qui aurait sauvé les juifs français. Décidément, à moins de 3 mois de la présidentielle, le candidat enchaîne les déconvenues ces derniers jours, Élodie Forêt.
Éric Zemmour est un habitué des polémiques, mais celle déclenchée vendredi dernier sur les enfants handicapés est une belle connerie, commente l'un de ses interlocuteurs réguliers, à tel point que le candidat a cette fois été bien obligé de nuancer ses propos et d'écourter sa visite dans l'Aisne. Hier à Calais, là aussi, le déplacement est contrarié, une séquence annulée sans explication et malgré les précautions, un comité d'accueil d'une trentaine de manifestants obligeant Éric Zemmour à s'éclipser en catimini. Une semaine marquée aussi par 2 rendez-vous judiciaires, condamnation en première instance lundi pour ses propos sur les mineurs isolés et procès en appel prévu aujourd'hui pour ceux sur Pétain et les Juifs français. Et si la défense est toute trouvée...
Aujourd'hui, nous avons une justice qui est instrumentalisée par des associations qui font de la politique sous couvert de droit. Je n'ai pas volé le sac d'une grand-mère.
Éric Zemmour espère bien malgré tout que le procès soit renvoyé. Seul lot de consolation de la semaine, le ralliement de l'eurodéputé RN Jérôme Rivière, qui après celui du LR Guillaume Pelletier, accrédite la thèse d'une possible union des droites.
Jérôme Rivière qui dans Le Parisien ce matin justifie son ralliement. Pour lui, je cite, Marine Le Pen n'est pas en situation de gagner la présidentielle. Le Sénat américain enterre la réforme électorale de Joe Biden, l'un de ses projets emblématiques. Le texte visait à protéger le vote des Afro-Américains menacés dans plusieurs États républicains selon les ONG. Nouveau revers pour le président qui venait tout juste cette nuit de donner une longue conférence de presse un an pile après son entrée à la Maison Blanche. Il est en prison en Iran depuis plus d'un an et demi. Benjamin Brière doit comparaître aujourd'hui devant un tribunal. Ce Français de 36 ans, parti faire du tourisme, a été arrêté en mai 2020 après avoir fait voler un drone de loisir dans un parc naturel. Il sera jugé pour espionnage, ce qu'il a toujours nié. Le tout sur fond de tension en ce moment entre Téhéran et les Occidentaux sur le nucléaire. Sa sœur, Blandine Brière, est partagée ce matin avant cette audience.
Il va comparaître devant le tribunal révolutionnaire de Mashhad, là où il est en détention, dans le nord-est de l'Iran. Il sera accompagné de son avocate sur place. Il est en grève de la faim depuis bientôt un mois. Il est très fatigué, il a perdu énormément de poids, mais il est toujours aussi déterminé dans sa démarche. Il essaye de faire bouger les choses de là où il est. C'est le flou total, dans le sens où on sait pas. C'est une étape, voilà. C'est une étape qui est aussi inquiétante que remplie d'espoir, mais encore une fois, on sait pas ce que va donner cette audition. Ça se trouve, on va juste nous donner rendez-vous dans quelques quelques mois ou nous dire que bah en fait il y a rien. J'ai aucun élément sur ce que ça peut être, quoi. C'est assez inquiétant, mais bon, en même temps, on a besoin que ça évolue et c'est quelque chose qui va faire évoluer la situation.
Blandine Brière au téléphone de Valérie Crova. Le comité international de la Croix-Rouge, victime d'une cyberattaque de grande ampleur, les pirates ont dérobé les données de 500 000 personnes vulnérables suivies par l'organisation, parmi elles des réfugiés ayant fui des guerres ou des catastrophes.
Et on termine pour une fois, Alexis, avec une bonne nouvelle en matière d'environnement.
Oui, c'est assez rare, profitons-en. On vient de découvrir un nouveau récif corallien au large de Tahiti, en Polynésie française. L'un des plus grands au monde à cette profondeur, plus de 30 mètres sous la mer. Et ce qui est le plus réjouissant, c'est que ces coraux sont en parfaite santé. Ça aussi, c'est rarissime aujourd'hui. Laetitia Edouin est l'une des scientifiques à l'origine de cette découverte sous l'égide de l'UNESCO.
Quand vous les regardez d'au-dessus, en fait, ça fait un peu comme des fleurs. Et ce qui a été vraiment, choquant, c'est la beauté, la taille des colonies qui était extrêmement grande. Il y en avait qui faisaient plus de 2 mètres de diamètre. Et l'immensité du champ, on a estimé à peu près qu'il faisait plus de 3 km de long. Qui plus est, en plus, dans un état de santé assez incroyable. Et donc, ça veut dire qu'elles ont quand même passé ces 2 dernières décennies, voire ces 3 dernières décennies, sans souffrir des impacts humains qu'on a générés sur la planète. Quand on découvre dans les profondeurs comme ça des récifs qui semblent être passés outre, ben j'avoue que moi, ça me redonne un peu d'optimisme pour le futur des récifs coralliens.
Laetitia Edouin, chercheuse en Polynésie, elle répondait à Sandy Dauphin. Et on n'est peut-être pas au bout de nos découvertes en eau très profonde, puisque l'UNESCO estime qu'aujourd'hui, seuls 20% des fonds marins de la planète sont cartographiés.
Alexis Morel, merci. L'édito politique à suivre.